chapitre 17, donc de 1 à 8, que j'aimerais vous lire. Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen. Voilà, jusqu'ici notre lecture. Nous connaissons bien ce passage de transfiguration. Pour les disciples, cela devait être une expérience, en tout cas ces 3 disciples devaient être une expérience extraordinaire. Sur cette montagne, ils rencontrent, enfin, ils voient leur Seigneur, leur Maître, qui se transforme. Et en plus de cela, ils rencontrent Élie. Élie qui représente les prophètes de l'Ancien Testament. Et puis Moïse qui représente la loi. Celui qui a reçu la parole de la part de Dieu directement pour écrire la Pentateuque, les 5 premiers livres. Celui qui a reçu l'histoire de la création, comment Dieu a créé le monde entier. Et ce Moïse-là était là aussi auprès de Jésus, s'entretenant avec lui. Les disciples voient donc ensuite la nuée descendre sur eux et la voix de Dieu résonner des cieux. Ils voient enfin qui est Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà l'histoire bien connue et que nous connaissons bien, que j'aimerais un petit peu voir de plus près. D'abord, le premier verset commence par « 6 jours après ». 6 jours après. Alors, quel événement il y a eu avant? Je pense que si nous regardons dans Matthieu 16, il y a l'événement où Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. Jésus demande à ses disciples, « Alors, qui je suis? Qui suis-je? Par rapport, enfin, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Comment ils me considèrent ?» Et les disciples ont répondu ainsi, « Les uns disaient que tu es Jean-Baptiste, celui qui est mort. » Ou encore Élie, ou les autres encore Jérémie, ou encore un des prophètes. Et il repose la question aux disciples en disant, « Mais qui dites-vous que je suis ?» Et là, Simon, Pierre, répond, « Ainsi tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà la première révélation où, à travers la révélation du Père, Pierre répond avec, je pense qu'il a été vraiment inspiré par l'Esprit de Dieu, pour dire que ce Jésus, ce Seigneur que nous avons suivi jusqu'à maintenant, ce Messie, ce Christ, il est aussi le Fils de Dieu vivant. Voilà un message très intéressant. Ensuite, après cet événement, bien sûr, Jésus leur raconte quoi? De ce qu'il va vivre, c'est-à-dire que ce n'est pas un Messie triomphant qui va régner le monde entier. C'est un Messie qui va passer par la mort et aussi qui va être ressuscité après, 3 jours plus tard, pour le salut de l'univers. Et là, Pierre, après avoir entendu cette mort qu'il n'attendait pas, il le prend à part. Il lui dit, mais Jésus, c'est pas bien ce que tu dis là. Il ne faut pas que ça arrive, ce genre de choses. Et là, Jésus le réprimande en disant que, bah, arrière de moi, Satan. Ces paroles-là ne viennent pas de Dieu, mais des hommes. Voilà un peu l'histoire qu'ils ont vécue juste avant cet événement de transfiguration. Et surtout, j'aimerais encore relire le dernier verset du chapitre 16, où il est dit, « Je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le Fils de l'homme venir dans son règne. » Dans son règne. D'autres versions, « Parmi ceux qui sont ici, certains ne mourront pas avant de voir le Fils de l'homme venir comme roi. » Promesse de voir la présence du royaume se manifester avec puissance. Et là, cette promesse, en fait, se réalise dans ce chapitre 17, où, justement, les trois disciples voient Dieu, enfin, Jésus, en tant que Dieu, en tant que lumière. Voilà l'événement. Et devant cet événement, je me dis que la question qu'on pourrait se poser d'abord, ce serait, pourquoi il a appelé seulement ces trois disciples? C'est vrai que ces trois disciples ont vécu des choses plus que les autres. Jésus les a interpellés souvent pour vivre des choses plus intimes, comme par exemple lorsque le chef du synagogue, la fille de Jaïrus était malade, ce chef de religieux vient auprès de Jésus pour qu'il vienne la guérir. À ce moment-là, Jésus prend seulement trois disciples, Pierre, Jean, Jacques, encore les mêmes. Et c'est à ce moment-là avec les parents aussi, ils ont guéri la fille de Jaïrus. Et puis encore un autre événement, dans Marc 14, où à Gethsémané, il y avait tous les disciples, mais il prend particulièrement les trois à part pour prier avant la crucifixion. Donc il a pris souvent ces trois-là pour vivre, pour leur faire vivre encore des choses extraordinaires. Pourquoi? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les trois étaient beaucoup plus intimes que les autres. Et je me suis dit, est-ce que moi, je suis dans l'intimité avec le Seigneur en ce moment? Est-ce que nos fidèles, est-ce que les gens de l'église de Vendeuvre sont dans l'intimité avec le Seigneur? C'est la question que je me suis posée. Et ça m'a rappelé un petit peu, lorsque j'étais à l'école théologique, c'est-à-dire il y a 16 ans, à Vaux-sur-Seine, quand je suis entré pour la première fois à l'école, il y avait un pasteur qui était là aussi, pendant une année, un pasteur de Congo, de Kinshasa. Et il était un pasteur expérimenté, il avait à peu près 60 ans. Il était pasteur d'une grande église, là-bas, dans son pays. Mais il a tout laissé pour terminer son doctorat. Et donc, je lui avais demandé Enfin, moi, j'étais un jeune étudiant en première année. Je ne connaissais rien du tout de la Bible. Enfin, si, je connaissais, mais pas grand-chose en tout cas. Et je voulais vivre vraiment quelque chose de beaucoup plus intime avec le Seigneur, une relation plus intime. Et je lui ai demandé, écoute, moi, j'aimerais vraiment avoir une vie de prière beaucoup plus intense avec le Seigneur. Et aide-moi. Est-ce que tu es prêt à m'accompagner dans la prière tous les matins à 6h du matin? Et puis, il a dit oui. Et puis, il toquait toujours à ma porte comme ça, à 5h30, pour me réveiller. Et c'était marrant parce qu'à chaque fois, quand il apportait une parole, c'était une parole qui correspondait avec ma vie, que je vivais à ce moment-là. Des paroles encourageantes, des paroles aussi qui me réconfortaient davantage, qui me consolaient, etc. Ce gars-là, un vieux monsieur. Il n'était pas aussi vieux, il avait juste 60 ans. Mais non, mais maintenant il doit avoir 75 ans ou 76 ans. Souvent, il priait tout le temps. À la fac de Vaux-sur-Seine, on a un grand terrain de foot et avec des bancs. Il était souvent assis tout seul. Il priait. Et dans sa prière, il s'endormait aussi. Et puis il se réveillait, et puis il priait encore. Et c'était vraiment un homme qui était toujours en relation avec Dieu. C'était un exemple, un modèle. Moi, j'étais vraiment content d'avoir quelqu'un qui était à côté de moi, qui m'encourageait justement à aller encore de l'avant. Hein. Vous savez que ce n'est pas toujours encourageant d'étudier la théologie. Hein. Et c'est aussi... Mais en tout cas, lui, il était là pour me soutenir spirituellement. Et c'était une bénédiction. Je me suis dit que cette intimité, nous ne devons pas vivre seulement à un temps donné, mais il faut vivre tout le temps. C'est vrai que les autres disciples, les neuf autres disciples, ils étaient aussi avec le Seigneur. Mais ils n'ont pas forcément vécu des choses extraordinaires comme ces trois disciples qui ont vécu des choses, plus que en tout cas les autres. Le Seigneur nous dit parfois, écoute, viens avec moi. Le Seigneur nous appelle à gravir une haute montagne. Et c'est vrai que gravir une haute montagne ne se fait pas sans effort. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour suivre le Seigneur. Quand il les a appelés, il ne leur a donné aucune explication. Il leur a juste dit, suis-moi. Et eux, ils étaient juste... je pense qu'ils n'avaient pas forcément tout l'équipement nécessaire pour monter à une autre montagne. Aujourd'hui, pour monter à une autre montagne, par exemple la semaine dernière, je pense qu'au week-end d'église, vous avez fait 2 heures de marche. Hein, et vous étiez quand même bien équipés avec des chaussures de marche, non hein, peut-être quelqu'un avait pris des... Non, personne. Mais en tout cas, en général, pour monter à une autre montagne, on prend quand même des bâtons de marche, etc., pour nous aider. Eux, ils n'avaient rien du tout. Mais ils ont choisi de le suivre. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, voulez-vous rester là où vous êtes en ce moment, spirituellement, ou voulez-vous progresser dans la foi en suivant le Seigneur, en étant plus intime avec le Seigneur? Êtes-vous comme ses disciples en pleine ascension? Dans cette ascension, on peut rencontrer des problèmes. Parfois, on peut être blessé par des pierres, par de grosses pierres qui nous font mal aux pieds. Je dirais même, dans cette suivance aussi, on peut être blessé par des déceptions. On peut être meurtri par les épreuves. On peut être fatigué aussi en suivant le Seigneur. Mais sachez qu'après tous ces efforts, souvenons-nous qu'à l'instant où les disciples ont vu la gloire de Dieu, cela valait la peine de le suivre. Cela valait bien la peine de se fournir autant d'efforts pour suivre le Seigneur. La suivante du Seigneur demande l'endurance, la patience, la persévérance même. Et c'est vrai, parfois, il y a aussi un prix à payer. Mais cela en vaut vraiment la peine, car rien ne peut remplacer la joie de la présence de Dieu, la joie de son intimité. Jésus nous invite ce matin à persévérer malgré les difficultés de l'obéissance. Nous avons vu, il y a 2 semaines, avec la prédication de Anne-Marie Jaillère sur l'obéissance, la bénédiction qui vient aussi après l'obéissance, mais la difficulté aussi d'obéir. Le Seigneur nous demande de le suivre, coûte que coûte. Une fois qu'ils sont montés, c'était la grâce. Ils ont expérimenté quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu Jésus métamorphosé, transfiguré. Une levée de voile de son humanité est partie. et la transformation de son apparence faisait voir son vraie identité, c'est-à-dire Dieu, pleinement Dieu. Et ainsi, la lumière de la gloire du Christ, venant de l'intérieur de son être, ressortait de son visage et de ses vêtements. Il y avait une grande lumière. Ces trois disciples étaient éblouis par la lumière que Jésus dégageait. Et c'était une préfiguration de la gloire du royaume à venir. Cette expérience était destinée à encourager ces hommes-là qui allaient subir aussi des persécutions terribles par la suite. Tous les croyants seront un jour métamorphosés, resplendiront comme le Christ, mais aussi nous sommes envoyés dans le monde pour peut-être vivre quelques persécutions. Et à travers ces expériences, justement, Dieu nous permet d'endurer ces souffrances. En tout cas, une fois qu'on a expérimenté ces choses-là, avec l'espérance vivante, on peut tout supporter. Sur la montagne de la Transfiguration, Jésus a rencontré donc Moïse et Élie, qui ont triomphalement terminé leur vie. Et de quoi ont-ils parlé? Dans Matthieu, on ne voit pas le contenu, mais dans Luc, on voit quand même le contenu de leur discussion. Dans Luc 9, 31, il est dit, c'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. La mort, la résurrection, l'ascension de Jésus auprès du Père, pour le salut, pour le plan du salut de tous les hommes. La destination de ce départ était le ciel de gloire, certes en passant par la crucifixion, mais après il y avait aussi en tout cas des événements comme la résurrection et l'ascension. Cela prouvait bien que Jésus est le Messie attendu par l'Ancien Testament pour le salut de l'humanité. Enfin, entre parenthèses, comment les disciples ont reconnu les deux, enfin Moïse et Élie? On peut toujours se poser la question, mais comment ça se fait? Comment ils ont pu reconnaître? Il n'y a pas marqué Moïse et Élie, hein? Comment ils ont fait? Je me suis toujours posé la question. Et puis, ça m'a rappelé un peu Luc 16, où vous savez l'histoire du riche et le pauvre Lazare. On voit le riche, après la mort, reconnaître Abraham. Abraham, il a pu reconnaître Abraham tout de suite. Et je pense que le Seigneur donne un certain discernement lorsque nous serons dans les cieux. Même si après, plus tard, des années plus tard, lorsque nous nous rencontrerons, nous nous reconnaîtrons. Parce que c'est vrai que, par exemple, si j'ai connu une vieille dame qui avait 107 ans, je pense que je la reconnaîtrai aussi, même si son image est complètement transformée. Enfin, je ferme l'entre parenthèse pour dire en fait que vraiment c'est important de vivre une expérience spirituelle parce que c'est un lieu de ressourcement, c'est un lieu où nous pouvons vraiment être renouvelés par la puissance de Dieu. Et puis, les disciples, après avoir vécu cette transfiguration, ils étaient tellement contents qu'ils voulaient, enfin surtout Pierre, avec son caractère fougueux, il voulait construire trois tentes. Il a dit, ah ici c'est le paradis total, j'aimerais rester ici, vivre éternellement ici. Je vais construire une tente pour toi, une tente pour Moïse, une tente pour Élie. Ça m'a rappelé aussi, une fois, j'avais organisé un congrès pour tous les chrétiens évangéliques coréens en Europe. Et donc, ils ne sont pas tous venus, mais on était à peu près 800 personnes, 800 personnes en Suisse, nourries, logées, et puis du matin jusqu'au soir, il y avait des conférences d'édification, tout le temps. J'avais invité les pasteurs de méga church super célèbres de Corée. Hein, ils étaient venus gratuitement pour être orateurs de ce congrès. Et là, nous étions vraiment au paradis. Leurs paroles étaient tellement encourageantes. On était vraiment. Je me suis dit, ça c'est le paradis céleste. J'aimerais rester. J'aimerais vivre ici continuellement, éternellement, en écoutant la parole de Dieu, en louant le Seigneur, etc., etc. C'est un avant-goût du paradis. Et puis le pasteur disait, mais après, à la fin, maintenant, il est temps de redescendre sur terre. Hein? C'est bien, vous avez été encouragés, vous avez vécu des expériences formidables. Et maintenant, vous êtes appelés à aller dans le monde, à être sel et lumière. Il ne faut pas rester là. Hein? Même dans les objets trouvés, j'avais trouvé un passeport. Donc j'ai dit, mais qui veut rester éternellement ici? Hein? Reprenez votre passeport. C'est bien, c'est important de vivre cette intimité avec le Seigneur. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écouter la parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il faut écouter. Écouter cette parole qui nous donne la vie. Écouter et obéir, justement, mettre en pratique cette parole que Dieu aimerait que nous fassions, nous pratiquions. J'aimerais vous lire dans Matthieu 5, à propos de sel et lumière. Vous êtes le sel de la terre, verset 13. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Si on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. À votre avis, pourquoi nous organisons Bouge ta ville cette année ici à Nancy, en collaboration avec toutes les autres églises de CNEF? Pourquoi? De l'Entente aussi. Pourquoi? Parce que nous voulons non seulement être, bien sûr, être édifié par la parole de Dieu en aimant le Seigneur, mais aussi nous voulons aimer notre prochain. Aimer notre prochain et faire des bonnes œuvres pour que les autres voient aussi ou glorifient notre Père en voyant notre témoignage, en voyant notre amour pour le prochain. Et dans cette action, il faut aussi s'investir. Et j'aimerais vraiment vous demander de prier pour cet événement, parce que ce n'est pas juste un simple événement qui va... Enfin, mais c'est quelque chose qui va... C'est un commencement, en fait. Ce n'est pas on va faire un bouche-ta-ville une semaine et c'est fini. Ce n'est pas ça. On aimerait faire un bouche-ta-ville afin que de créer une relation avec des autorités, afin de créer des relations avec ces maisons de retraite qui ne nous ont jamais reçus jusqu'à maintenant, mais ça permettra justement d'aller plus régulièrement pour rendre visite, pour être en contact avec les gens, et aussi afin aussi à travers nos bonnes œuvres, les gens voient la gloire du Père. Amen. Pour cela, on a besoin de la prière. Dans ces actions, moi j'appelle ça l'amour en action, cet amour en action, il faut se préparer dans la prière. Il faut se préparer aussi, en mettant du temps. Ça demande du temps, de l'argent, de l'énergie, des fidélités. Donc tout cela, préparons-nous. J'aimerais terminer par un verset, 1 Jean 3, 17, 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. On peut facilement dire des paroles qui expriment l'amour, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir aimer en action et aussi avec vérité, que nous puissions vraiment mettre en pratique cet amour en action dans ce monde. Et aussi, Dieu nous a placés là où nous sommes, dans votre lieu de travail, dans vos relations avec vos voisins. Et ce n'est pas au hasard que là où vous êtes, ce n'est pas au hasard que Dieu vous a placé là-bas. Que le Seigneur nous bénisse pour que la grâce que nous avons reçue puisse être reflétée. Cette lumière que nous avons reçue puisse être reflétée à travers nous, à travers nos actions, à travers nos paroles, à travers nos relations. Que le Seigneur, que le monde aussi voit l'amour du Père. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle que tu es un Dieu grand, puissant. Tu es notre Dieu. Tu es le Créateur de l'univers. Tu représentes tout, Seigneur. Tu es mon berger. Nous avons tout à l'heure chanté aussi notre Père. Tu es notre Père qui prend soin de tes enfants. Seigneur, cette vérité, ce trésor que nous avons dans notre cœur, nous voulons aussi annoncer. Mais pour cela, avant d'annoncer, aide-nous aussi à expérimenter cette chose extraordinaire dans notre vie quotidienne. Que nous puissions vivre cette intimité avec toi et à travers ces expériences, à travers cette relation que nous pouvons vivre avec toi, que nous soyons encouragés à aller dans le monde aussi, pour être sel et lumière. Merci encore de nous bénir, merci encore de nous accompagner dans nos actions, et qu'à travers cela, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus. Amen.